Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Grève géante en vue contre le protocole sanitaire à l'école. 3 professeurs sur 4 ont mobilisé dans le primaire. Des personnels de direction se joignent au mouvement. C'est très rare. Les parents s'organisent pour garder les enfants. Pour l'exécutif, c'est une crise dans la crise. À moins de 3 mois de la présidentielle, Jean-Michel Blanquer en première ligne. Il garde le soutien du gouvernement. Question pour un cold case. Une garde à vue se poursuit ce soir dans l'enquête sur la tuerie de Chevaline. C'était il y a 9 ans en Haute-Savoie. Outre-Manche, on ne parle que de ça. Le Partygate, un scandale de plus pour Boris Johnson. Le Premier ministre a dû admettre aujourd'hui sa participation à une fête en plein confinement en 2020. La météo, ce sera froid et sec demain matin avec des éclaircies dans l'après-midi. L'invité éco, nous serons avec le fondateur de Blablacar. Il publie demain les coulisses de sa très belle success story et puis on découvrira les unes de la presse pour demain matin.
Europe 1.
Veillée d'armes chez les profs. Les syndicats d'enseignants ne veulent pas faire mentir les prévisions. Ils s'attendent à une journée de grève historique demain contre le protocole sanitaire. 75% de grévistes annoncés dans le primaire. Les collèges et les lycées seront aussi de la mobilisation. Une partie des parents soutient cette grève. Dans tous les cas pour eux, il faut prendre ses dispositions pour faire garder les enfants au CNTR.
Oui, il faut s'organiser. Certains appellent en catastrophe les grands-parents pour venir surveiller les petits-enfants. D'autres prévoient de mettre leur journée de télétravail entre parenthèses. Cette grève vient encore compliquer un quotidien déjà bien chamboulé entre classes fermées et cas positifs.
Je viens d'apprendre la nouvelle par les enfants. Donc Maddy, lui, il n'a pas du tout classe demain. Donc CM2, donc la classe est totalement fermée. Donc je suis obligée de les garder. C'est pas évident de gérer et le travail et la vie des enfants et surtout le repas le midi et les réunions et tout ce qui s'ensuit.
On doit s'occuper des enfants, rester à la maison, faire du télétravail. On va jongler. Ça devient très, très compliqué.
Pourtant, la majorité des parents que j'ai croisés l'affirment. Ils sont plutôt d'accord avec les enseignants grévistes. Un protocole sanitaire qui change d'un jour à l'autre. Des enfants à tester tous les 2 jours. La situation devient impossible à gérer, explique par exemple Marie, mère de 3 enfants.
Je pense que je les comprends un petit peu. Nous, en tant que parents, déjà, on a des changements de programme toutes les 4 minutes. Là, il y a, je sais pas, 4 jours, on a appris à 8h05 que l'école était fermée. On était sur le chemin de l'école, c'est compliqué de s'organiser. Je pense qu'à un moment, effectivement, il va falloir donner des consignes qu'on tient et puis on ne change pas toutes les semaines.
Et la plupart des parents que j'ai rencontrés ne suivront pas l'appel de la FCPE, Fédération des parents d'élèves, à garder les enfants à la maison. Ils iront les déposer demain à l'école si leur enseignant n'est pas absent.
Océane Théard. Les parents s'y préparent, l'exécutif s'y prépare et on va en parler dans un instant. C'est donc une mobilisation d'une rare ampleur qui se profile demain à l'école, Louise Salé.
Oui, et on peut même dire historique, une dizaine de syndicats du primaire et du secondaire ont appelé à faire grève. 75% des enseignants devraient se mobiliser selon le SNUIPP. À Paris, 58% des maîtres et des maîtresses ont déjà confirmé être absents. Et sur le territoire national, la moitié des écoles devraient fermer, toujours selon les syndicats. Ce qui est historique, surtout, c'est l'union de la hiérarchie aux côtés des enseignants, puisque des inspecteurs académiques et des chefs d'établissement s'apprêtent à faire grève, ce qui est extrêmement rare. Des syndicats disent même que ça ne s'est jamais vu depuis au moins 20 ans. Parmi les grévistes, il y aura aussi des agents de collectivité qui s'occupent des temps périscolaires, du ménage et de la cantine. Si bien que certaines communes ont déjà averti ne pas pouvoir assurer le service de garde minimum, il est pourtant obligatoire lorsqu'une grève se déclare et seuls les enfants de soignants seront donc accueillis en priorité.
Louise Salé. Un ministre se retrouve sous le feu des projecteurs et plus exactement sous le feu des professeurs en colère contre Jean-Michel Blanquer. Cet après-midi devant les sénateurs, le ministre de l'Éducation répond à une question du groupe LR qu'il accuse d'impréparation dans le réglage du protocole sanitaire à l'école.
Nous sommes contraints par des réalités. En l'occurrence, nous préférions qu'il n'y ait pas le virus, nous préférions qu'il n'y ait pas une telle complexité des choses. Ensuite, vous avez cherché d'une certaine façon à caricaturer les évolutions qui sont le prix à payer pour être au plus près des réalités. Mais si on va à l'épure des grands principes, c'est toujours le même. La seule transformation, c'est celle que le Premier ministre a annoncée, c'est-à-dire que le premier test devient un autotest parce qu'on a justement écouté les complexités éprouvées par les acteurs de terrain. Donc soit on veut créer des polémiques, c'est en réalité assez facile vu les difficultés que pose ce virus, soit on cherche l'unité nationale autour de notre école et tout simplement on décrit les choses comme elles sont. Aujourd'hui, les 3 autotests permettent d'aller dans ce sens décrit par le Premier ministre, c'est-à-dire une politique qui permet et d'avoir l'école ouverte et d'avoir de la sécurité sanitaire.
Jean-Michel Blanquer, cet après-midi au Sénat, le ministre de l'Éducation est en première ligne et pour tout dire en difficulté dans cette crise, dans la crise. Il est maintenant visé nommément par l'opposition, Jacques Serret.
Oui, les écologistes par la voix de Yannick Jadot ou encore les socialistes réclament la démission du ministre de l'Éducation. À droite, les Républicains eux, demandent des comptes à Jean-Michel Blanquer et surtout une simplification expresse du protocole sanitaire dans les écoles. Même en interne, la pression s'accentue sur Jean-Michel Blanquer. Ce matin, juste avant le Conseil des ministres, la tension est montée entre lui et Olivier Véran. Les deux hommes s'expliquant vivement sous les yeux de leurs collègues. Jean-Michel Blanquer reprochant au ministre de la Santé de ne pas suffisamment le soutenir dans cette crise. Alors officiellement, Emmanuel Macron a lui apporté un soutien appuyé aux locataires de la rue Grenelle. Mais dans la Macronie, il y a une réelle appréhension de la mobilisation de demain. On va suivre ça de très très près, admet un conseiller. D'abord parce que le ministre de l'Éducation, poids lourd du gouvernement, se retrouve en pleine tempête. Et à moins de 100 jours de la présidentielle, les conséquences de cette crise peuvent immédiatement retomber sur le chef de l'État. Mais à ce stade, hors de question de débrancher le ministre, qui reste pour les marcheurs une carte maîtresse pour parler à l'électorat de droite.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Où sera Emmanuel Macron demain pendant la grève des écoles, collèges et lycées? Eh bien, le président s'adressera aux universitaires en clôturant le congrès de la conférence des présidents d'université. On compte près de 362 000 cas de Covid en 24 heures. Aujourd'hui, c'est à peine moins qu'hier, mais avec toujours plus de patients hospitalisés, près de 24 000. L'épidémie au plus haut également au Danemark, qui va proposer une quatrième dose de vaccin aux plus vulnérables. Dans les Yvelines, la justice suspend l'obligation du port du masque à l'extérieur. Le tribunal administratif retoque cet arrêté préfectoral. Le juge y voit une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle. Il estime que le masque ne peut être imposé dehors que si la situation sanitaire locale le justifie et si cette obligation est limitée aux heures de pointe et lieux les plus fréquentés. En Guadeloupe, plus de 600 personnels soignants non vaccinés se sont inscrits à un accompagnement pour une reconversion professionnelle. C'était une proposition du gouvernement pour mettre fin à la violente crise sociale qui a secoué les Antilles cet automne.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
C'est un accouchement décidément difficile pour l'EPR, cette technologie nucléaire du futur qui reste une fois de plus d'ailleurs bloquée quelque part dans le futur. Nouveau retard sur le chantier EPR de Flamanville dans la Manche. L'inauguration de la centrale nouvelle génération attendra encore. Nouveau retard et donc nouvelle facture, Maud Descamps.
Oui, 300 millions d'euros de plus pour une facture totale de 12 milliards 700 millions d'euros, soit plus de 3,5 fois le prix annoncé au moment du lancement du chantier en 2007. L'EPR devait être livré en 2012, le calendrier a été revu plusieurs fois et ce matin, donc EDF a annoncé un nouveau report en passant à une mise en service de l'EPR en 2023. Au lieu de 2022, un retard dû aux travaux de réparation de nombreuses soudures défectueuses. Ces travaux devaient se terminer en avril. Ils ne prendront fin qu'au mois d'août. Le chargement du combustible, c'est-à-dire les pastilles d'uranium qui vont alimenter le réacteur, est donc décalé de 6 mois. Cette annonce arrive à un très mauvais moment pour EDF. Emmanuel Macron veut construire de nouveaux EPR sur le sol français. Ces nouveaux déboires autour du chantier de Flamanville pourraient donc sérieusement entamer la confiance des investisseurs dans la filière nucléaire française.
Maud Descamps, spécialiste des questions d'énergie d'Europe 1. Les soldes d'hiver font grise mine pour cette première journée de rabais. Des soldes toujours sous l'empreinte du Covid, bien sûr. Pas de déferlement de clients en RTT aujourd'hui dans les rues des centres-villes ou les allées des centres commerciaux. À Lyon, par exemple, le reportage de Jean-Luc Boujon.
D'habitude très fréquentée, la rue de la République, grande artère commerçante de Lyon, était quasi déserte ce matin pour le lancement des soldes. Pas de queue devant les magasins, alors que c'est généralement le cas devant les portes des grandes enseignes de prêt-à-porter, type Zara ou H&M. Et c'est la même chose dans les boutiques plus haut de gamme, comme Maje, magasin de vêtements pour femmes.
Premier passage, 11h20, donc très calme.
Les gens ont ça dans la tête, quoi, le Covid.
Je pense, on vient un peu avec ça matraqué, donc c'est sûr que s'il y a 300 000 cas par jour, plus télétravail, il y a moins de monde dans les boutiques, quoi.
Et le même constat est fait par les clientes, comme France, qui malgré tout a décidé de se faire plaisir, ce qui est vital selon elle en ce moment.
Je sors du printemps, là, j'étais quasiment toute seule dans le magasin, c'est très agréable, ça a l'air très intéressant cette année. Au niveau des prix, c'est bien et on a besoin de se détendre.
C'est thérapeutique.
Oui, oui, ça fait du bien, ça ouais. Fait du bien. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est plutôt dans une période anxiogène.
D'autres, comme Sonia, n'ont pas hésité une seconde à venir faire les soldes dès les premières heures.
Moi, j'ai pas peur. Je suis une acheteuse compulsive. Le Covid m'arrête pas. En aucun cas.
Donc, il y a quoi alors dans les sacs ?
Il y a un peu tout, des robes, des jeans, des mitaines, des vestes. Il y a un peu de tout.
Mais clairement, les soldes addicts étaient moins nombreux dans les magasins aujourd'hui. Et s'il faut s'attendre à un boom des ventes en soldes, ce sera cette année sur Internet. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Voilà, sur Internet, ou alors en tout cas, vous l'avez entendu, hein, vous avez de la place dans les magasins cet hiver si vous voulez vous faire plaisir. Une surprise de poids à la prison de Villepinte en Seine-Saint-Denis. Un surveillant de la prison a été interpellé ce mercredi avec 1 kg et 600 g de cannabis sur lui. L'enquête était ouverte depuis septembre dernier. Le gardien âgé de 25 ans est suspecté d'avoir approvisionné les détenus en cannabis. Vous n'avez peut-être pas oublié cette affaire criminelle qui remonte à la surface et qui reste un mystère complet 9 ans après les faits. Une personne est toujours en garde à vue ce soir dans l'enquête sur la tuerie de Chevaline. 2012, vous vous en souvenez peut-être, donc 3 membres d'une famille britannique avaient été retrouvés abattus de plusieurs balles dans la tête dans leur voiture sur une route forestière de Haute-Savoie, ainsi qu'un cycliste, le corps là encore criblé de balles. Les enquêteurs n'excluent pas que cette garde à vue puisse relancer l'affaire, William Molinier.
Oui, cet homme est interrogé depuis 8h ce matin par les gendarmes de la section de recherche de Chambéry. Il s'agit essentiellement, selon nos informations, de vérifier son emploi du temps. Rien n'a fuité à ce stade sur son profil, mais on sait qu'en septembre dernier, une opération de reconstitution dans le secteur de Chevaline avait été ordonnée. Des perquisitions ont été menées aujourd'hui avec un espoir, celui de mettre la main sur l'arme du crime jamais encore retrouvée, car c'est à ce jour la quasi seule piste tangible des enquêteurs, un pistolet bien particulier puisqu'il s'agit d'un Luger P06 Parabellum utilisé par l'armée suisse jusque dans les années 60. Cette caractéristique, c'est ce qui fait dire à plusieurs acteurs du dossier que le tueur habite vraisemblablement la région. Sans doute est-il un collectionneur de vieilles armes, peut-être un ancien militaire lui-même. Les gendarmes s'échinent depuis plusieurs années maintenant à cribler ce type de profil. De nombreuses pistes ont été étudiées, plus ou moins farfelues. Meurtrier itinérant, tueur à gages ou encore règlement de compte entre services de renseignement. Mais rien n'a abouti jusqu'à présent.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Chez nos voisins britanniques, maintenant, voici Boris Johnson empêtré dans un nouveau scandale après la révélation d'une garden party en plein confinement. C'était au printemps 2020. Les Britanniques, à l'époque, ne pouvaient voir qu'une personne à la fois, quand au même moment, leur Premier ministre, lui, participait à une fête de 100 personnes. Anaïs Cordoba, vous êtes à Londres pour Europe 1. Boris Johnson l'a donc reconnu. Il s'en est même excusé aujourd'hui devant les députés.
Oui, Boris Johnson a admis avoir assisté à un rassemblement dans les jardins de Downing Street lors du premier confinement. Mais pour lui, c'était un événement professionnel et il ne pensait pas enfreindre les règles. Contrit, il a aussi demandé pardon devant la Chambre des communes. Écoutez.
Je veux présenter mes excuses. Je sais que des millions de gens ont fait des sacrifices extraordinaires durant ces 18 derniers mois. Et je comprends leur colère contre moi quand ils voient qu'à Downing Street, les règles ne sont pas suivies correctement. Nous avons fait des erreurs et j'en prends la responsabilité.
Mais ces excuses ont été jugées insuffisantes et trop tardives et les leaders des principaux partis d'opposition ont appelé Boris Johnson à la démission. Les sondages montrent aussi que désormais 2/3 des Britanniques souhaitent son départ. Une enquête interne est toujours en cours pour déterminer ce qu'il s'est exactement passé à Downing Street. Si elle incrimine Boris Johnson, plusieurs élus conservateurs se disent prêts à déclencher un vote de défiance contre leur leader.
Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres. De mémoire de spectateur, difficile de trouver un équivalent à cette fin de match sidérante entre la Tunisie et le Mali en Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali l'a emporté cet après-midi 1-0, mais dans un final abracadabrantesque, Jean-François Pérez, l'arbitre a sifflé 3 fois la fin du match.
Oui, il restait 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire de ce Tunisie-Mali quand soudain... Contre toute attente, l'arbitre zambien siffle à la fin du match. Les deux équipes sont sidérées. Non seulement il restait 5 minutes, mais les 9 remplacements et les 2 interventions de la vidéo auraient dû ajouter plusieurs minutes de temps additionnel. Après une brève discussion, le jeu reprend. Mais une fois encore, avant même la fin du temps réglementaire, Gianni Sikazoué porte le sifflet à sa bouche. Cette fois, il ne revient pas sur sa décision. 1-0, les Maliens lèvent les bras au ciel, les Tunisiens enragent. Nouveau coup de théâtre en pleine conférence de presse. Les officiels annoncent que les joueurs doivent revenir sur la pelouse. pelouse pour disputer les trois dernières minutes. Les Maliens s'exécutent, pas les Tunisiens. Dans l'intervalle, on a perdu l'arbitre. C'est son suppléant qui constate l'absence des Tunisiens et siffle pour la troisième fois la fin du match dans une ambiance surréaliste. Troisième fois et peut-être pas la dernière. Les dirigeants tunisiens ont déposé réclamation. Hors de question pour eux de reconnaître le résultat de ce match inachevé et déjà entré dans la légende de la Coupe d'Afrique.
Oui, la légende peut-être en catégorie bêtisier. En tout cas, merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Le temps pour ce jeudi, Marlène Duret. C'est pas l'heure de siffler la fin du froid hein, pour vous, Marlène. Vous nous dites qu'il faut bien se couvrir pour demain matin encore.
Absolument, hein. Alexandre, parce qu'il va geler du nord-est au sud-ouest, vous allez me dire, cette saison. Hein. Jusqu'à l'arrière-pays provençal aussi. Alors, j'ai noté jusqu'à moins 8, moins 9 degrés au fin fond des vallées du Massif central. Moins 6 à Clermont-Ferrand, on attend moins 5 à Nevers, Grenoble, Tarbes. Moins 4 degrés à Belfort et Toulouse. Demain, moins 2 à Dijon. Moins 1 à Limoges, Biarritz. Moins 1 également entre Perpignan et Marseille et même à Ajaccio. Voilà, puis vous aurez un petit peu moins froid en allant vers la Bretagne ou la Côte d'Azur avec un maximum de 4 degrés au lever du jour à Rennes ou encore à Nice. Beaucoup de brouillard sinon, hein, ou plaques de grisaille cette nuit et au lever du jour. Brouillard parfois givrant sous les températures négatives. Une fois dissipé, bien il fera beau, sauf dans certaines vallées. On a l'habitude, notamment du côté de la plaine d'Alsace, le Val-de-Saône ou vers la Garonne. Et puis en allant vers les Pyrénées, l'Auvergne, l'arrière-pays provençal, le golfe du Lion, les Alpes, la Corse, on se réveillera sous un ciel dégagé. Malheureusement, quelques régions débuteront la journée sous un ciel bien couvert. Une zone qui va des Hauts-de-France et de la Champagne-Ardenne à la Bretagne, en passant par l'Île-de-France, le Gâtinais, la Beauce, l'Anjou, la Normandie. Le ciel sera couvert toute la matinée et les éclaircies auront du mal à s'imposer l'après-midi en montagne. Très belle journée, on échappe à la grisaille. Au plus chaud de la journée, on termine quand même par quelques températures les maximales cette fois, parce que j'ai commencé par vous donner les températures matin.
On vous suit, Marlène.
Et donc, au plus chaud de la journée, il fera 3 à 9 degrés en général, une dizaine de degrés dans le Pays Basque et le Béarn, et 10 à 15 près de la Grande Bleue.
Merci Marlène Duret, rendez-vous avec vous à minuit pour un nouveau point météo. Dans un instant sur Europe 1, c'est Top à Wall Street avec Claire Lemaître. A tout de suite.
Europe 1. Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street avec Claire Lemaître sur Europe 1 de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
La séance a été hésitante aujourd'hui à Wall Street, mais les indices ont plutôt bien résisté à l'annonce d'une hausse spectaculaire de l'inflation.
Oui, avec une toute petite hausse pour le Dow Jones, plus 0,11%, 36 290 points. Pas beaucoup mieux pour le Nasdaq qui gagne 0,23%. Les marchés ont gardé leur sang-froid malgré l'annonce d'une inflation de 7% sur un an en décembre aux États-Unis. On est au plus haut depuis 1982. Alors le chiffre était tout de même anticipé et les investisseurs semblent parier que la Fed parviendra à maîtriser la flambée des prix en 2022 sans provoquer une récession. Wall Street a été soutenue par les valeurs technologiques, plus 1% pour Microsoft. Apple gagne 0,3%. Selon Goldman Sachs, les délais de livraison de l'iPhone suggèrent que l'offre répond désormais largement à la demande après les difficultés d'approvisionnement de l'an dernier. Et puis l'action de Didi Global prend 1,3%. Le géant chinois des VTC devrait être coté à la bourse de Hong Kong au deuxième trimestre et se retirer parallèlement de Wall Street.
Si l'on regarde les valeurs en baisse, maintenant l'action Biogen subit une lourde sanction ce soir.
Et Biogen qui chute de près de 7% alors que son traitement contre la maladie d'Alzheimer devrait avoir une portée limitée. L'agence américaine de santé a annoncé que le programme Medicare prendrait en charge les traitements contre cette pathologie seulement pour les patients inscrits dans le cadre d'un essai clinique. Les cours du pétrole sont repartis de l'avant aujourd'hui après deux séances de prise de bénéfices. Le baril de brut léger américain WTI a gagné 3,8%. Il est à 81,22 $ et l'euro est en hausse, plus 0,4%, 1,1368 $.
Une deuxième séance de rebond pour le CAC 40, l'indice parisien soutenu par Wall Street qui était dans le vert au moment de la clôture à Paris.
Oui, un CAC 40 qui gagne donc encore 0,75%, 7237 points ce soir, rassuré lui aussi par les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Du côté des valeurs, le distributeur de matériel électrique Rexel a relevé ses prévisions de résultats. L'action bondit de 10%. Le géant Total Energy profite de la hausse des cours du pétrole et gagne plus de 3%, plus 6% pour le géant de l'acier. l'acier ArcelorMittal. Et puis EDF limite la casse en hausse d'un petit 0,1% après l'annonce d'un nouveau retard dans le chantier du réacteur EPR de Flamanville. Ailleurs, en Europe, les marchés sont en hausse ce soir, plus 0,8% pour Londres, plus 0,4% pour Francfort, Amsterdam gagne 1%, à Milan plus 0,6%, Madrid plus 0,2% et à Paris, le CAC 40 gagne 0,7%, 7 237 points.
Merci Claire Lemaître. Avec l'invité Écho, ce soir sur Europe 1, on vous emmène dans les coulisses de Blablacar. Et en avant-première d'ailleurs, Frédéric Mazella est le président et fondateur de la célèbre plateforme de covoiturage. Il publie « Mission Blablacar, les coulisses de la création d'un phénomène ». C'est aux éditions Erol. Son livre sera disponible en librairie dès demain, mais sans attendre donc. Frédéric Mazella vous dit tout, il répond à Emmanuel Duteil.
Bonsoir Frédéric Mazella.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le fondateur de Blablacar. Mais ce soir, alors ça va peut-être vous faire sourire, c'est l'auteur que nous allons recevoir puisque vous venez de faire sortir un livre, justement Mission Blablacar, les coulisses de la création d'un phénomène, un livre qui vient de sortir aux éditions Erol. Alors finalement, vous prenez l'exemple de votre réussite, l'exemple de Blablacar, mais c'est un livre sur la création d'entreprises. J'ai envie en première question de vous demander, c'est quoi au regard de votre expérience, le plus beau des souvenirs que vous ayez eu, parce que vous en partagez beaucoup dans votre livre, dans la création d'entreprise de Blablacar, c'est quoi votre plus beau souvenir ?
Ah, c'est un moment où j'ai entendu des gens parler de Blablacar parce qu'ils venaient de l'utiliser. Et de voir des gens à la table d'à côté, j'étais en terrasse à un café, et de voir les gens de la table d'à côté faire une démonstration de l'application, à l'époque ça s'appelait pas Blablacar, ça s'appelait Komuto, mais de l'application qu'ils avaient utilisée pour venir de Bruxelles vers Paris, et dire qu'ils avaient rencontré quelqu'un de formidable qui jouait de la guitare en concert juste à côté, qu'ils allaient le voir juste après, enfin bon bref, c'était de voir que tout le travail qu'on avait fait était dans la vraie vie de tout le monde et utilisé au hasard d'une rencontre comme ça en terrasse de café.
Je le disais, c'est quasiment un livre sur la création d'entreprise, autour de vos échecs, autour de vos succès. Si on poursuit du coup la réflexion, c'est quoi le moment le plus dur? Le moment où vous vous êtes peut-être dit « je vais devoir tout arrêter ».
C'est clairement dans les toutes premières années, surtout quand voilà, on se raccroche sur les tout premiers utilisateurs, évidemment. Après, sur l'évolution des différents parcours de vie, en fait, de chacun de nous, quand on a 25, 28, 30, 32, 35 années, eh bien, on voit chacun évoluer différemment. Et puis nous, on est sur notre projet. Enfin, en tant qu'entrepreneur, on est sur un projet qui, clairement, peut aboutir à rien du tout. Et on voit d'autres personnes qui construisent leur vie, peut-être de manière un petit peu plus conventionnelle et visible, avec un vrai boulot. Alors j'en parle un peu justement dans le livre, puisque...
Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a presque l'impression que ce qui vous est arrivé, alors je veux dire, ça a été de la chance. Non, parce qu'une fois de plus, vous avez créé Blablacar, pour ceux qui ne le sauraient pas, pour répondre à votre propre besoin, puisqu'à un moment, vous vous êtes rendu compte que ça n'existait pas comme alternative au train. Mais il y a un moment, vous dites dans le livre, j'ai découvert le concept de mon modèle économique plus de 2 ans après avoir commencé à travailler. Vous vous êtes lancé, puis finalement, la bonne idée est devenue une réussite économique.
C'est pas tellement une réussite économique qu'il faut, c'est surtout un équilibre économique. C'est-à-dire qu'il faut un modèle pour que, tout simplement, les revenus compensent les coûts. Parce qu'en fait, c'est très très facile de dépenser, c'est beaucoup plus difficile d'équilibrer les coûts. Et donc, trouver un modèle économique, ça veut dire trouver une manière de faire fonctionner toute la machine. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. On peut avoir initialement l'idée du service, voilà, donc comment on fait pour que... Qu'est-ce qu'on propose comme service? C'est-à-dire faire simplement en sorte que les gens partagent leur voiture sur des trajets communs. Mais après, comment vous équilibrez ça au niveau modèle économique? C'est très compliqué. On en a fait 6 des modèles économiques avec beaucoup de modèles qui ne marchaient pas du tout. C'est-à-dire des modèles qui font que si vous poursuivez, vous n'allez faire que perdre de l'argent. Donc, vous êtes obligé de fermer tout de suite.
C'est un livre aussi d'entretien. Vous répondez à beaucoup de questions qu'on se pose. Il y en a une qui m'a plu justement dans ce chapitre sur les échecs et les succès. Vous répondez à la question « La vie d'entrepreneur ressemble étrangement un parcours du combattant, comment gardes-tu le moral ?» Votre réponse, c'est l'humour.
Ouais. parce que ça permet de dédramatiser, de prendre du recul. Voilà, c'est toujours, il y a toujours un côté drôle sur une situation, même qui pourrait paraître désespérée parfois. Et donc, quand on regarde les choses avec humour, on voit une autre réalité et puis aussi ça redonne un petit peu d'optimisme. Donc c'est vrai que c'est souvent une pirouette qu'on utilise.
Oui, et on voit des moments, alors je sais pas si ça va vous plaire que je le dise ainsi, mais de souffrance, parce que il y a les mots de persévérance qui reviennent très souvent. Et je sais pas si vous vous souvenez, une question sur le bonheur, vous dites à un moment, le burn-out guette toujours l'entrepreneur. C'est ça les risques les plus importants, l'usure.
Ce qu'il faut, c'est vraiment faire la différence entre les deux, c'est-à-dire que beaucoup travailler, c'est pas un problème. En revanche, il faut réussir à évacuer le stress qui peut aller avec, parce que quand vous cumulez les deux, vous pouvez vous retrouver dans une situation qui ressemble à une sorte de d'entonnoir qui vous met dans un état psychologique compliqué. Donc, il faut toujours prendre du recul par rapport à une situation qui peut paraître stressante, identifier d'où vient potentiellement le stress. Si on peut régler le problème, eh bien, on essaie de le régler. Si on peut pas régler le problème, la source du stress, à ce moment-là, il faut juste admettre qu'on ne peut pas régler la source du stress et essayer de faire en sorte d'éviter les conséquences.
Quand vous dites la persévérance, il y a aussi d'une certaine manière, alors je sais pas si c'est comme ça que vous vouliez le dire, mais un certain apprentissage de l'école de la lenteur. Et notamment, ça vous le dit dès l'introduction, ne cherchez pas d'ascenseur, il n'y en a pas. Les entrepreneurs prennent toujours l'escalier. Pourtant, quand on voit la rapidité avec laquelle nous avons des licornes, c'est-à-dire en ce moment des entreprises qui valent plus d'un milliard de dollars. Vous avez été, vous, l'une des toutes premières licornes en France. Il avait fallu des années pour que vous y arriviez. Là, rien que depuis le début de l'année, on en a eu trois. En une journée, on a battu les records de valorisation de ces entreprises jeunes. Vous vous dites quoi ? Eux, ils ont pris l'ascenseur, même le trampoline ?
Ah non, mais je me dis toujours la même chose, c'est-à-dire que une valorisation, ce n'est pas une construction de quelque chose d'extrêmement solide, ça reste une valorisation. En revanche, effectivement, avoir plus de moyens, ça permet de construire quand même plus vite, mais il n'empêche que toutes les étapes d'une société qui doit devenir grande et solide doivent être construites de manière extrêmement extrêmement attentive.
Mais est-ce que vous dites que vous avez ouvert la voie à est-ce que vous avez ouvert la voie à ces entrepreneurs ? Parce que on a pu en interviewer beaucoup là récemment sur Europe 1 et tous disent les succès engendrés nous ont montré que c'était possible et surtout on a eu une vision mondiale dès le démarrage, qui n'était pas votre cas, mais très vite vous êtes parti à l'international et vous avez montré qu'on pouvait y arriver.
Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on nous dit beaucoup, je l'entends beaucoup parce que évidemment je communique beaucoup avec tous les entrepreneurs qui ont des histoires comme vous dites avec des licornes là, qui apparaissent partout maintenant, que je connais depuis plusieurs années généralement, et puis là quand ils percent, j'ai envie de dire au grand jour, on les connaît un peu plus, mais c'est vrai qu'ils me répondent souvent que quand je leur dis bravo, c'est super, enfin ça donne de l'éclairage sur tout l'écosystème tech français et donc de l'espoir à tout le monde. Ils me répondent écoute, merci à toi, t'as montré la voie. Et c'est vrai que quelque part on a je pense ouvert quelque chose, on a peut-être passé ce plafond de verre là qui nous faisait croire que la France n'était pas forcément capable de construire des sociétés technologiques et orientées clients et qui deviennent complètement globales et mondiales. Bon, avec BlaBlaCar qui est aujourd'hui dans 22 pays, on a 100 millions de personnes dans le monde, dont 20 millions en France, mais quand même 80 millions de personnes inscrites sur BlaBlaCar qui ne sont pas les Français.
Donc vous avez réussi, vous aussi, cette internationalisation. Et effectivement, vous avez ouvert la voie. Et pour tous ceux qui ont envie d'en savoir plus sur BlaBlaCar, mais je tiens vraiment à dire que c'est plus un livre sur la création d'entreprise et sur votre expérience à vous, des écueils, des réussites, parce que on le voit, il y en a beaucoup. Merci beaucoup Frédéric Mazzella. Je rappelle le titre de votre livre, Mission BlaBlaCar, les coulisses de la création d'un phénomène, c'est aux éditions Erol. Merci de nous l'avoir dévoilé en avant-première puisque le livre sort demain. Nous on se retrouve justement demain, 22h20.
Merci à vous Emmanuel Dutheil, on vous retrouve également demain avec Elisabeth Assayac de 13h à 14h pour La France bouge sur Europe 1. Demain, une émission branchée, tiens, mais sur le réseau électrique, puisque vous recevrez la patronne d'Enedis.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Tous les quotidiens demain regardent dans la même direction, la grève à l'école avec Jean-Michel Blanquer piégé par les contraintes sanitaires, c'est la une du Figaro, les injonctions contradictoires du gouvernement pour maintenir les cours en présentiel tout en contrôlant l'épidémie font du ministre de l'Éducation la cible des enseignants. Sans surprise, Libération y va plus fort, l'éducation en grève, c'est la faute à Blanquer avec cette caricature pas très tendre pour le ministre de l'Éducation à la une de Libé, Jean-Michel Blanquer coiffé d'un bonnet d'âne fait de masques FFP2. La mobilisation de ce jeudi, écrit Libération, révèle révèle un ras-le-bol qui va bien au-delà des ratés de la gestion du Covid. À l'école, l'heure est à la colère et à l'incompréhension, c'est le titre de La Croix. Et puis une pensée pour les enfants à la une du Parisien aujourd'hui en France avec le grand stress des autotests, un calvaire pour les parents et une angoisse pour les jeunes enfants. Et oui, outre l'inconfort que cela représente que de tester un enfant, plus vous le testez, plus il a tendance à se croire malade lui-même. 22h31, vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver La Libre Antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher.
Combien d'autotests avez-vous fait Olivier? Est-ce que vous êtes capable de vous en souvenir?
Écoutez, oui, j'en ai fait trois.
Ah, c'est pas un très bon souvenir à chaque fois.
Ça va, c'est pas non plus... Mais c'est vrai que c'est assez désagréable.
Il y a plus agréable quand même. Hein.
Exactement.
Bon, mais surtout pour des enfants.
Mais oui, non, mais pour les enfants, c'est... voilà. Bon, on est dans un débat hystérique. Vous savez, moi j'ai lâché depuis longtemps, très sincèrement. J'ai des enfants, vous le savez. J'ai des amis qui ont des enfants. Bon, et voilà, c'est une hystérie totale autour des enfants, des écoles, les enfants qui doivent faire des tests. On dirait finalement que les politiques n'ont pas d'enfants.
Alors, certains en ont.
Mais oui, mais oui, et c'est ça qui est étonnant, parce que... mais non, en fait, ils n'imaginent pas les contraintes que les gens normaux, hein, finalement, qui n'ont pas leur vie, ont... voilà. Et je préfère mettre de la distance entre ce débat ou moi, parce que vous avez peut-être remarqué que j'ai une tendance à pouvoir m'énerver assez facilement devant l'absurdité.
À bouillir.
Exactement. Et je crois avoir deviné que je ne suis pas le seul.
On verra demain.
Voilà. On a assez de La Libre Antenne pour débattre de choses avec nos auditeurs.
Sereinement.
Le groupe Facebook sur lequel ça débat beaucoup et le soir même, donc en direct, on débat de tout un tas d'autres choses qui viennent alimenter d'autres débats dont on parle beaucoup moins. Donc on parle assez du Covid comme ça.
Bien sûr, et qui ont d'autres débats qui ont leur place évidemment avec vous.
Bien évidemment. Et on va remettre ça ce soir. On se retrouve tout à l'heure à 23h. À tout à l'heure Alexandre.